Il joue au poker.
C'est un peu tard.
We are family. On n'est pas bien en famille.
Ouais. Bonjour et bienvenue dans l'émission We are family. Cette création radiophonique a été conçue et écrite par les résidents et les hôtes des pensions de famille L'Atelier à Montpellier, Le Figuier à la Grand-Combe, Salvador Allende et Les Papillons à Alès, sous la direction d'Alix Lepienne, réalisatrice. Immersion dans l'univers unique des pensions de famille, We Are Family se donne pour mission de faire découvrir les compétences artistiques, passions et aspirations de ses habitants. Mais avant toute chose, c'est quoi une pension de famille ?
Les pensions de famille sont des lieux de vie uniques qui permettent à celles et ceux dont le parcours de vie a été chaotique de reprendre confiance en eux. Elles sont des résidences où la vie collective et l'intimité de chacun sont étroitement liées et préservées au quotidien.
Alors là, vous entendez un bruit d'aspirateur parce que c'est le jour auquel les résidents font le ménage. Et ici, on est à la cuisine, le lieu le plus fréquenté, on va dire, de la pension. Et là, c'est Léa, résidente depuis combien de temps ?
Ça va faire 7 ans.
La pension de famille Le Figuier, qui est située à la Grand-Combe, ancienne cité minière au cœur des Cévennes, est gérée par le service d'entraide protestant et soutenue par la Fondation Abbé Pierre. C'est une résidence sociale d'une vingtaine de logements en location. Elle a été fondée en 2006 et a fut la première du Gard. Cet habitat propose une vie semi-collective, sans limite de durée, ponctuée de repas en commun, de sorties et de nombreux ateliers organisés par les hôtes, dont le rôle principal est de conseiller et d'accompagner les résidents dans la réalisation de leurs projets de vie. Avoir un chez-soi, tout en bénéficiant d'une vie collective, assure une sécurité de vie qui favorise le développement de projets personnels et la reprise de confiance en soi.
On est pas bien en famille, là ?
Bonjour Daniel, tu es hôte à la pension de famille du Figuier. Comment ça se passe une journée d'hôte dans une pension de famille ?
En général, il y a quand même un squelette d'une journée qui a été à peu près préétabli, mais elle n'est jamais la même. Comme dans une famille, c'est fait de personnes, d'événements, de rires, de pleurs, de joie, voilà, tout ça, et tout ça compose une journée.
Ça va, Margaret ?
Oui, ça va.
Est-ce qu'on t'a servi un café ?
Je vais attendre.
Voilà, elle a senti que les croissants étaient coupés.
Salut, Margaret. Et bonjour Alix. Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Bien. Salut, Daniel.
Salut.
On met ça, tu vois, un café ?
Ben oui.
Il n'y aura pas forcément beaucoup de choses aujourd'hui.
Non.
Ben, d'habitude, on est combien ? 4 ? 3 ? 4 ?
Ouais.
Vous êtes sur quoi ? Vous faites quoi ?
Ça dépend, on fait des sacoches pour hommes, des sacs, tu vois, voilà. On est sur des rideaux en ce moment pour les résidents. Christine, elle se fait une cape.
On va mettre la pression, toujours le petit côté, ouais, là. Et l'autre, il faut le mettre dans le bon sens pour qu'il s'enfonce dedans. Hein. Là,
d'accord.
Tu vois, pour qu'il s'enfonce, celui-là s'enfonce dans le trou là.
Ok.
Voilà, ça c'est un travail à la main.
Ok.
Pour celui-là, tu regardes bien que quand tu le coupes dessus, que tu ne le coupes pas sur le noir. Parce que ça serait apparent et ça serait moche. Tandis qu'ici, tu peux aller à travers, tu t'en fous.
Hein? D'accord.
Voilà, alors maintenant il faut trouver le fil et aiguille.
Tu veux bien me faire un petit tour de la pension ? Vite fait ?
Oui, allez, on va.
Voilà.
Je te suis. Ici, à gauche, c'est l'atelier peinture. Regarde, on aperçoit un tableau. Là, ça mène directement à la cuisine. Le bureau.
Le bureau des hôtes.
Où ceux qui sont les occupants. Ils sont fainéants, t'as vu ?
Daniel et Nathalie ne sont pas là.
Ne sont pas là.
En même temps, c'est votre maison. Ils ne sont là que pour veiller au grain.
Parce que c'est leur boulot.
Voilà.
Donc, après maintenant la nouvelle cuisine, eh ben, tu as bien vu, puisque on l'a inaugurée hier en fait. Alors, on va y entrer à nouveau ?
Qu'est-ce qu'on mange alors?
Bon, écoute, tu verras. Si t'es malade, c'est pas grave. Tu peux nous laisser cuisiner, s'il te plaît? Allez, de l'autre côté.
Nous sommes 25. C'est pas pratique comme chiffre, ça. Bon. Vous voulez plutôt grande ou petite
on
table?
On fait 5 tables de deux.
Mais je pense aussi.
C'est qui est de mise de table?
Ben, c'est moi, Nicolas, justement. C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Les nappes, les assiettes?
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma petite voix de Maïté, Madame Alix?
C'est parfait.
Ça vous va comme ça?
Joli,
c'est pourri parce que...
Si tu prenais la pile, tu irais plus.
Non, sérieux. Vous regardez bien que je fais pas de bêtises, hein.
Alors, les infos pour la fin de semaine. Cet après-midi, s'il y en a qui veulent jouer à la pétanque, qui c'est qui est motivé? Est-ce qu'il y a une petite équipe de motivés? 1, 2, 3... Faudrait un peu plus. 4. Bon, si vous êtes au moins ça, vous pouvez jouer à la pétanque. Demain matin, 11h, on fera la chorale. Et à 15h, il y a le dessin. Pour ceux qui sont concernés par le séjour à la mer, si vous voulez, je propose qu'on passe juste un petit temps pour réfléchir aux activités que vous aimeriez qu'on fasse pour que moi, derrière, je puisse faire les réservations qui vont bien. Juste qu'on prenne le temps d'en parler, un quart d'heure, à la fin du repas de vendredi. Et puis, ce sera tout. Sauf si vous avez une annonce. Vous avez faim? Eh bien, ça tombe bien. Allez, c'est parti. Alors, bon appétit.
Merci.
C'est quoi les équipes?
D'accord, hein.
Ah ben oui, mais...
Allez, à vous, là, à vous, là. Eric, tu joues avec Marc et Onissa?
Oui.
Allez, Christine.
Non, mais...
Christine, bien sûr. Bien sûr.
Ouais,
et vous rejoignez la main.
Monsieur Meng.
Aïe, aïe, aïe.
Ah. Oh, vous jouez à quoi? Un petit ou... Voilà, vous êtes là.
Oh, c'est ma boule, là. Oh, la mer.
Quelle erreur.
Bon nom de Rivière. Bravo.
Bien en famille.
Alors, je m'appelle Christine, je suis ici au foyer Le Figuier à la Grand Combe. Je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon dans les mains, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, je me rappelle l'école maternelle. Au début, je faisais des quadrillages sur les modèles et je les reportais sur une feuille blanche. C'est un moyen d'évasion quand je n'ai pas le moral, par exemple. Je dessine et ça va beaucoup mieux. C'est un voyage, un échappatoire.
Tu animes un atelier peinture à la pension de famille du Figuier. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, ce que tu fais faire aux résidents?
Je pense que tout le monde est capable de dessiner quelque chose. Alors, j'essaye de motiver les personnes qui s'y sont intéressées à faire de la peinture, de l'aquarelle, tout ce qu'on peut trouver comme méthode technique pour s'exprimer artistiquement.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Donc là, on est dans ton atelier de peinture, Christine?
Oui, je suis toute seule, je suis la seule arrivée, mais Eric ne va pas tarder.
Tu travailles sur quoi?
Je suis en train de faire une sorte d'elfe avec ses ailes, là.
Et toi, Eric, tu travailles sur quoi?
Je travaille à partir de croquis que j'essaie de mettre en couleur. C'est un croquis de la maison, de la pension de famille.
C'est un petit moment de pause, là, quand vous êtes à l'atelier.
On apprécie. Mm-hmm. Moi, j'apprécie beaucoup parce que c'est calme. Comment dire, Christine est une personne calme. Et moi, je ne suis pas non plus un excité. Donc, en fait, on s'amuse bien. Voilà, et puis on s'encourage, on regarde ce que fait l'autre de temps en temps. Et voilà, on trouve des idées. Christine me donne des conseils. Moi, c'est elle qui m'a dit, tu devrais prendre des crayons à l'encre de Chine et tu verras que ça ressortira bien.
Donc là, Eric, tu travailles au crayon de couleur.
Oui.
Tu es en train de faire les volets de la pension de famille.
De faire du remplissage, du coloriage comme les enfants.
Ça détend. À l'hôpital d'Alès, quand j'étais hospitalisée, il y avait un paquet de crayons de couleur pour que les patients puissent changer les idées et tout, avec un dessin tout préparé et tout dans les livres de coloriage.
Donc Christine, donc tu dessines beaucoup.
Oui.
Et tu vas nous présenter un dessin que tu as produit.
Oui.
Alors comment s'appelle-t-il ?
Dame Nature. Alors sur ce dessin, il y a une coccinelle, une demoiselle et une mante religieuse sur le corps de la Pachamama, donc de la Mère Nature.
Qui est une magnifique femme brune.
Oui.
Qui a les yeux fermés, le oui. menton levé.
Oui, elle pense, elle réfléchit, elle est dans son élément et elle respire.
Tu l'as fait avec quel matériau ?
Alors j'ai utilisé de l'encre de Chine et des crayons aquarelles.
Tu as un deuxième dessin ?
J'ai voulu représenter l'amour. J'ai dessiné donc un cœur qui est relié à deux personnes, un homme et une femme, donc, qui s'aiment énormément et qui sont reliés par tous les vaisseaux et les artères d'un seul cœur. L'amour, c'est une question qu'on se pose tous et toutes. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est ce qui est sorti de mon esprit tout naturellement. Voilà.
Merci beaucoup, Christine.
Bonjour, je m'appelle Robin.
Qu'est-ce que ça te procure de dessiner ?
Je pars dans un autre monde.
Tu nous as choisi un dessin que tu as fait. Est-ce que tu peux me le décrire, s'il te plaît ?
J'avais fait un sorte de jardin où je me baladais. J'avais vu un arbre, justement, et je l'ai dessiné. Et auprès de cet arbre, il y avait une montagne avec une grotte et une chute d'eau. Et cette montagne, elle était en granit.
Et donc, il y a la chute d'eau
qui retombe sur une pierre qui fait forme une cascade et qui fait une rivière qui coule le long.
Moi, je t'avais demandé, alors Robin, t'es où ?
Moi, j'étais sous l'arbre en train de m'allonger.
Tu faisais la sieste ?
Oui.
Parce que tu venais de te baigner dans la cascade.
Oui, c'est ça.
Ce qui fait très chaud.
Oui.
Et donc, tu t'es mis sous la cascade fraîche.
Oui.
Et après, tu t'es reposé sous le grand arbre à l'ombre. Et il y a ton petit rondin de bois qui t'attend.
C'est ça.
Parce que quand tu vas te réveiller de la sieste,
je vais m'asseoir sur le rondin.
Et après, le soir, tu iras dormir où ?
J'escaladerai la grotte. J'essaierai de faire un petit feu de camp.
Comme un loup solitaire.
C'est ça.
Que tu es. Merci Robin, tu m'as fait rêver. À bientôt.
À bientôt.
On n'est pas bien en famille, là ?
Mon rêve absolu serait de mettre à l'abri mes enfants de toute difficulté. Moi, je voguerai de côte en côte et de rivage en rivage sur mon voilier imaginaire. J'irai à la rencontre de l'autre. Je les écouterai. Je rirai avec eux. Je mangerai avec eux. Et un petit matin, je m'en irai en ayant appris et en ayant touché d'autres horizons.
Mon rêve serait de revivre une journée sucrée d'enfance en été. Se baigner à la rivière. Faire du vélo. Rire. Avoir comme seul souci de savoir s'il fera beau. Puis se réveiller en espérant que l'enfant que j'étais soit fier de l'homme que je suis.
Si j'étais un rêve, je serais un homme en plein désert. À côté d'un dromadaire, au bord d'une oasis au soleil levant.
Mon rêve serait de vivre au Québec et d'avoir une cabane dans les bois où me réfugier le week-end. Elle serait au bord d'un lac, perdue au milieu de rien. Le silence, le bruit de mes pas dans la neige en hiver, puis des rires d'enfants et des batailles de boules de neige à n'en plus pouvoir. Et enfin, le calme retrouvé près du feu qui crépite dans la cheminée.
We are family. Même moi,
good on family.
Bonjour, je suis Laure, j'ai 60 ans, l'âge de raison, et ma passion c'est l'écriture. J'écris depuis toujours, en fait, depuis toute jeune, j'écrivais des petites choses, des petites histoires, des petits contes, des poèmes, mais c'était pour moi, c'était comme ça, quand c'était une exutoire, quoi, c'était juste pour passer le temps, ou pour, quand j'avais des émotions un trop pleines d'émotions, hop, je me mettais à écrire et ça me soulageait. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu une vie assez mouvementée, assez riche, dense. J'ai vécu beaucoup de choses. Et donc, j'ai emmagasiné beaucoup d'émotions et d'histoires, en fait, et de rencontres aussi, beaucoup. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il me faut le restituer. Alors, je le fais.
La petite fille, un conte de Laure Drouche. Il était une fois, une petite fille, née de la pluie et du tonnerre. Elle était si petite et se sentait tellement seule. Les éléments pour parents ne lui suffisaient plus. Elle demanda à sa mère la pluie.
« Maman, je me sens si seule. Je voudrais une petite sœur ou un petit frère pour jouer et partager. »
Son père, le tonnerre, qui avait entendu, lui répondit.
« Va, ma petite fille, parcourir le monde et ta solitude comme l'or. Et n'oublie jamais que nous serons, ta mère et moi, toujours avec toi. » Au-dessus de toi.
La petite fille, d'abord dubitative, se décida à suivre les conseils de son père et s'en alla tout droit à travers les chemins. Tout en marchant, elle réfléchissait à son sort de petite fille quand soudain, elle rencontra un vieux monsieur qui lui demanda
« Que fais-tu, petite fille, toute seule? Tu es perdue ?»«
Je suis avec mon papa et ma maman. Et en effet, je me sens seule sans petit frère ou petite sœur pour jouer. » »«
Je vois. » Un petit frère ou une petite sœur, te donner, je ne le peux pas. Mais combler ta solitude, je le peux.
Et il se mit à jouer un air de piano, à vous transpercer le cœur d'émotion. La petite fille, émue par la beauté de cette musique, dit
« C'est vrai que d'écouter votre belle musique peut prendre toute une vie. » Mais ce dont j'ai besoin, c'est d'un petit frère ou d'une petite sœur pour jouer.
Elle continua donc son chemin, les yeux pleins de larmes d'émotion. Elle avançait à nouveau, joyeuse, en pensant à sa quête, lorsqu'au détour d'un chemin, elle aperçut une dame avec un très beau chapeau. Celle-ci l'interpella.
« Mais que fais-tu ici, toute seule, petite fille ?»«
D'abord, je ne suis pas seule. Mes parents sont au-dessus de moi. Et en fait, je m'ennuie. » Et j'aimerais bien avoir une petite sœur ou un petit frère pour jouer avec moi.
La dame réfléchit et dit.
Te donner un petit frère ou une petite sœur, je ne le peux pas. Mais occuper ton temps, je le peux. Écoute.
Et elle se mit à déclamer une poésie si belle que la petite fille en fut bouleversée.
Tu vois, ton temps et ton cœur peuvent être comblés, et ta solitude vite oubliée. La poésie transporte l'âme vers de vastes contrées.
La petite fille, très émue, mais aussi sûre d'elle, lui répondit.
J'ai besoin de jouer et partager avec un petit frère ou une petite sœur, même si ta poésie m'a rempli le cœur.
Et elle continua son chemin, plus légère qu'à son départ et pleine de nouvelles émotions. Elle croisa bientôt sur sa route un monsieur. Il était taché de toutes les couleurs.
Que fais-tu sur ce chemin, petite fille ?
Eh bien, je poursuis ma route, car je me sens si seule, sans petit frère ou petite sœur pour jouer.
De frère ou de sœur, je ne peux te donner, mais reste là et regarde mon tableau se créer. Cela comblera ton temps et ta solitude.
Et il se mit à peindre un sublime paysage, si beau que la petite fille en eut les larmes aux yeux.
Que c'est joli! Que cela me remplit le cœur de joie!
Le monsieur lui répondit.
Tu peux combler ta solitude par tant de beauté.
Oui, c'est vrai, mais moi, j'ai envie de jouer et de partager.
Et elle poursuivit sa route. Elle avançait avec légèreté et insouciance. Les couleurs du peintre, la mélodie du piano et les vers du poème de la dame au chapeau s'enchevêtraient dans son esprit, accompagnant ses pas. Elle réalisa alors qu'elle pouvait jouer et partager malgré l'absence d'un petit frère ou d'une petite sœur. Soudain, il se mit à pleuvoir.
« Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là ?»«
Nous venons prendre de tes nouvelles. » »«
Je me sens légère et comblée de joie. Et finalement, j'ai beaucoup partagé tout au long de mon chemin. »
Et elle dansa avec la pluie, tout en riant aux éclats, à la grande satisfaction de ses chers parents, les éléments.
On n'est pas bien en famille ?
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping, that left its seed while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain, still remains, within the sound of silence.
Bonjour, je suis Robert Boatman, je viens d'Angleterre, and je suis un peu musicien, un peu artiste.
Quand est-ce que tu as commencé à jouer de la musique?
Depuis que j'étais trop jeune, j'avais 6 ou 7 ans quand j'ai joué mon premier instrument de musique. Après ça, j'avais commencé avec la guitare avec ma mère, et la flûte dans mon école, et même le piano dans mon école.
De quel instrument tu joues, Robert?
Moi, je préfère la harmonica.
Tu chantes aussi?
Je chante moi-même. Si j'allais dans le magasin et il y a une ligne de les gens pour passer la caisse, je chante. Et les gens l'aiment bien quand je chante comme ça. C'est bizarre. Et c'est pour ça que je l'aime bien essayer pour chanter. Quoi.
Qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la musique et de chanter?
Jouer la musique pour être heureux dans la vie. Morning has broken.
Boris, résident à la pension de famille Les Papillons, originaire de Pologne.
Je m'appelle Boris, je joue la guitare parce que j'aime ça. Je joue la guitare depuis très longtemps, donc depuis l'adolescence. J'ai appris tout seul avec des collègues, des amis. J'avais des petits groupes amateurs autrefois quand j'étais plus jeune. Et puis maintenant, je joue pour m'occuper, pour m'amuser, pour me détendre. Une fois, j'ai écrit ça, j'étais dans un gare en Pologne et comme toujours, il y a toujours dans les bars les gens qui attendent rien. Ils sont là-bas pour attendre le lendemain. Et voilà, avec leur bière, c'était dans les grandes villes, les bars sont ouverts toute la nuit. Et ça raconte un peu l'ambiance.
Poisson là, t'es tellement bon. cousin qui va, c'est nous qu'on s'amouille, manger au dit local. Aïe, 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 maman, oui, 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 papa, vous mettez-moi à dans passion. Passion là, t'es belle tellement, qu'elle m'a grandi aujourd'hui là. Faut-moi porter les autres avec moi, moi, oui, oui, oui.
T'as quel âge, Tony?
Moi, j'ai 52 ans.
Tu fais quoi, du coup?
Moi, j'aime bien ça me détend.
C'est la percu?
Oula.
La percu, mais sur quoi, là?
Sur une caisse de vin.
Une caisse de vin,
ouais.
En bois.
En bois. Moi, j'ai appris à jouer tout seul. J'avais quoi, 14 ans? On avait un local, MJC, au fait. On avait un groupe de percus pour le carnaval. Et puis après, de temps en temps, comme c'était toujours ouvert, on allait, on prenait le percus, on se foutait devant le truc, là. Et puis on commençait à taper, Puis c'est venu comme ça, en fait. Au fur et à mesure, j'ai commencé à jouer. J'ai joué avec un groupe. J'ai joué en Périgord, avec des amis des Antilles. J'ai fait pour la fête de la musique. Et ça m'a jamais quitté, moi. C'est en moi, quoi, au fait. C'est un bien-être, au fait. Parce que, déjà, c'est la tonation, tu vois. T'arrives, tu fais travailler tes doigts. Et ça, c'est très important, parce que, comme ça, tu fais la musculation des doigts, au fait. Et oui. La musculation des doigts, l'avant-bras, tu sors le mauvais et tu accumules le bien. C'est pareil. Quand tu fais une cure de quelque chose, t'as le bien-être. Eh bien, moi, ça me fait un peu pareil. Là, je vais te faire un petit morceau de carnaval.
Bonjour Eric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, je m'appelle Eric, j'ai 60 ans, je suis résident à la pension de famille Le Figuier depuis presque 8 ans. Ça serait difficile de dire exactement combien de temps je fais de la musique, mais j'ai commencé très tôt à pianoter, à jouer du piano, et en fait c'est mon instrument de prédilection. Je joue un peu de guitare aussi. J'ai commencé il y a presque 7 ans maintenant dans une école de musique à reprendre les bases et à rejouer des morceaux que j'avais déjà joués ou alors en entreprendre de nouveau. La musique pour moi c'est un espace de liberté et ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte de l'évasion, de la créativité, puis du partage, parce que je veux dire comme on le verra peut-être pour la chorale, c'est la possibilité de chanter tous ensemble des chants qu'on aime bien et de se retrouver.
pas bien, famille ?
Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou.
Décor oiseau, sa vie vert pure et d'eau fraîche, un oiseau. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut.
Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui? Dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu.
Un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut.
Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace ni. Comment peut-on vivre sans lui? Quel homme, quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Et comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut.
La chorale a commencé à l'époque où Nadia était présente comme hôte et on a pris un plaisir à chanter tous ensemble.
Nathalie, tu es hôte à la pension de famille du Figuier, tu animes l'atelier chorale. Peux-tu me dire à quelle fréquence a lieu l'atelier et combien de résidents participent ?
En théorie, l'atelier a lieu toutes les semaines. Ils sont une dizaine de résidents à participer sur cet atelier chorale.
Éric, quel est ton rôle au sein de l'atelier chorale ?
Écoutez, j'essaye d'accompagner les morceaux que l'on interprète et puis de faire un peu l'échauffement en début de chorale.
Tenir la note, c'est-à-dire qu'une fois que vous chantez, vous maintenez la note et on va essayer de faire un accord.
Mon petit doigt m'a dit que vous avez eu l'opportunité d'aller enregistrer 3 morceaux en studio, donc au studio Amplitude à Alès. Est-ce que Nathalie, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ?
On est allé une première journée au studio avec Eric et Christine, et Natacha, l'intervenante, pour enregistrer la partie des musiciens. Donc Eric au piano, Christine à l'harmonica et Natacha à la guitare. Donc une première demi-journée dédiée à ça. Et ensuite, on y est retourné tous ensemble avec la chorale en entier, avec Nadia qui, même si elle ne travaillait plus à la pension, est venue pour l'occasion. Et là, nous y avons passé la journée. Le matin, on a répété en condition avec les casques. Un moment de découverte. C'était une grande nouveauté, une première pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'était impressionnant. Et l'après-midi, on a fait tous les enregistrements. Donc, une grosse journée de travail.
Eric, peux-tu me dire comment ont été choisis les trois morceaux que vous avez enregistrés en studio ?
Tout d'abord, c'est des chansons qui ont été choisies parce qu'elles nous plaisaient. Et ensuite, parce que l'intervenante Natacha nous a fait travailler en canon les morceaux. Donc, c'était ceux qui se prêtaient le mieux à un chant avec des voix différentes, à superposer. On a travaillé trois chansons, La tendresse, Ma liberté et Fait comme l'oiseau.
Au début, j'étais stressée, un peu impressionnée de voir ce studio aussi grand. Mais on nous a mis à l'aise et puis c'était une joie de chanter ensemble.
Alors moi, mon ressenti, c'est que j'ai passé un très bon moment, bien entouré de personnes, avec des jolies voix, quand même, à reconnaître, et du plaisir.
Complètement enchantée par le projet, c'était génial.
Moi, j'étais déjà enchantée par l'idée de faire un CD. J'étais très heureuse, un petit peu mal à l'aise au début, mais ça s'est vite dissipé et je me suis mis dans le coup.
Merci beaucoup pour ces témoignages et on va maintenant écouter le morceau La tendresse que vous avez donc enregistré au studio Amplitude à Alès.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non. Vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment.
La culture est un puissant levier d'émancipation, de dignité et de citoyenneté. Une grande partie des personnes en situation de précarité n'ont peu ou pas accès à une pratique artistique. Initiée par la Fondation Abbé Pierre, la Garance, scène nationale de Cavaillon, et l'association Le Village, soutenue par le ministère de la Culture, la Ville d'Avignon et Emmaüs France, le festival C'est pas du luxe propose à ses publics fragilisés, accueillis au sein d'associations de la grande précarité, de participer à la création d'une œuvre en collaboration avec un artiste professionnel. Véritable croisement des mondes entre institutions culturelles et structures sociales, le festival accompagne et soutient une trentaine de projets artistiques par an. L'objectif est de valoriser ces créations, de redonner une visibilité aux personnes précaires et d'œuvrer au changement de regard que la société porte sur elles. Constituée dès les années 60, la collection Lambert est un ensemble d'œuvres d'art contemporain réunie par le marchand d'art et collectionneur Yvon Lambert. Elle est abritée au sein de deux hôtels particuliers, l'hôtel de Caumont et l'hôtel de Montfaucon en Avignon.
Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Ibars et je suis directeur artistique de la collection Lambert à Avignon.
Donc vous menez un projet avec plusieurs pensions de famille pour le CEPA du Luxe 2022. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce projet ?
C'est un projet qui est né presque par hasard. Le musée dans lequel je travaille a été sollicité par le festival CEPA du Luxe et la Fondation Labbé Pierre pour participer à l'endroit qu'on voudrait à ce festival, qu'on connaissait très peu. Et il se trouve qu'on avait des projets en tête d'exposition qui puissent un peu redéfinir les frontières de ce qu'était une exposition, de comment ça se concevait, avec quelle personne, qui pouvait avoir le droit à la parole dans la construction d'une exposition. Et du coup, on a trouvé là une espèce de caisse de résonance juste merveilleuse pour pouvoir mener des expérimentations qu'on n'avait pas encore entamées. On a décidé de faire un projet, d'abord qui allait être un projet d'exposition de la collection d'Yvon Lambert. On s'est adressé à des pensions de famille et on leur a dit, voilà, on a un projet d'expo de la collection et on aimerait que vous travailliez avec nous à créer une exposition et nous aimerions partir d'objets que nous apporterions tous, donc nous, vous, qui sont des objets qui sont très référents, qui, sur un plan affectif, signifient quelque chose.
Et donc l'idée, c'est de mettre en relation les objets qui vous ont confiés, leurs histoires, avec des œuvres de la collection.
Ouais, l'idée, ça va être de raconter la collection sous un point de vue différent, mais qui est le sien finalement, qui est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on ressent face à un objet quand il est présenté dans un musée ? Qu'est-ce qui se déclenche de l'ordre de l'affect ? Quelle est l'histoire derrière cet objet ? Et on va essayer de faire des dialogues, en fait, entre des œuvres de la collection qu'on aura choisies ensemble et des objets qui seront présentés. Le projet est organisé en collaboration avec un artiste qui s'appelle Mohamed El-Khatib. C'est un beau projet de médiation, c'est-à-dire que ça va faire comprendre aux gens que dans un musée, quand on rentre, on se pose déjà la question de ce que fait un objet, une œuvre au milieu de nous. Pourquoi elle a été installée comme ça et ce que je ressens quand je la vois. Et il nous semble à nous, en tout cas, que c'est comme ça qu'on arrive à appréhender l'art et à entrer en relation avec, plutôt qu'avec des tonnes de textes de salle qui vous font croire que vous ne savez rien et que vous ne saurez jamais rien. Et parce que le propos d'Yvon Lambert, c'est d'avoir découvert des artistes qui sont aujourd'hui extrêmement célèbres, mais d'avoir juste pressenti au fond de lui qu'il y avait une relation qui se passait avec un objet face auquel il était. Voilà. Et puis c'est une aventure humaine qui est juste formidable et qui nous force nous aussi à nous décentrer par rapport à des points de vue qu'on a sur l'exposition, qui va me permettre à moi mais d'avoir un nouveau regard sur la collection, de passer par d'autres yeux, d'autres sensations, d'autres discours aussi. Et je pense que pour le public, ça sera aussi un bénéfice énorme parce qu'il y aura une aventure et une histoire derrière toute cette installation qui, j'espère, vont transpirer à tous les endroits.
Donc, bonjour Daniel, tu participes avec une résidente qui s'appelle Christine au projet de la collection Lambert.
C'est ça. Alors moi j'ai amené une carte postale, c'est ma grand-mère qui me l'a envoyée, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans quand je l'ai reçue. Dessus il y avait une moto, j'imagine qu'elle a dû se dire, tiens c'est un garçon, j'achète une carte avec une moto, donc une belle BMW dessus. Mais l'histoire de cette carte c'est que quand on allait au parc, je demandais à ma mère de prendre cette carte et la mettre dans son sac. Moi j'étais sur mon vélo et je m'imaginais que j'étais au guidon de cette moto et de temps en temps je lui demandais à ma mère, je lui disais, ah fais-moi voir la photo, je l'ai regardée, je disais ok c'est bon. Et je m'étais dit, mince j'ai perdu cette carte et un jour je l'ai retrouvée. Et j'étais tout content parce que de ma grand-mère, il ne me reste pas grand-chose, il me reste ça. Et de lire derrière son mot, enfin, ce qu'elle m'a écrit, c'était très touchant. Et c'est surtout que je re-entends le son de sa voix. Voilà.
Bonjour Christine, toi tu participes activement au projet de la collection Lambert.
Ah oui, c'est trop génial. Ah, très enrichissant, on visite des musées bien sûr, une maison à Cavaillon par exemple qui ressemble à la caverne d'Ali Baba avec des objets antiques, de l'Antiquité, de la Renaissance, de toutes les périodes de l'histoire, c'est trop intéressant, c'est trop chouette, enfin, moi j'apprécie beaucoup.
Bonjour Abdallah.
Bonjour.
Tu as participé au projet de la collection Lambert ?
Exactement.
Est-ce que tu peux me dire quel objet tu as choisi ?
Donc en fait, cet objet, c'est juste une simple pièce de 5 francs de 1971, qui est ma date de naissance. J'y avais fait un petit trou et j'avais attaché un fil de pêche. Et ma maman pouvait téléphoner au Maroc, gratos. Parce que c'était très cher, quoi. Très très cher pour appeler ses sœurs et tout. Comme elle venait juste d'arriver du Maroc, elle était encore, je veux dire... Elle était perdue ici, quoi. Elle n'avait personne. Elle ne pouvait que téléphoner une fois par semaine. Alors je lui ai percé cette pièce de 5 francs. Et... Au début, elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur. Les anciens étaient à cheval sur les lois françaises, quoi. Ils en avaient peur. Et un jour, je suis rentré brusquement pendant qu'elle parlait. C'était un soir plutôt parce que le téléphone était moins cher pour téléphoner au Maroc le soir. Et je suis rentré et je l'ai légèrement poussé pour pouvoir introduire la pièce de 5 francs. Et je lui ai attaché à son doigt et elle me disait... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas bien, mon fils. C'est pas bien. C'est la loi, c'est pas la loi. C'est pas ça et tout. Mais elle se rendait compte qu'elle avait sa sœur encore au bout du fil. Donc elle parlait en même temps avec sa sœur et elle m'incendiait à moi. Et elle s'est rendue compte que c'était cool, quoi. À mon niveau, j'ai essayé d'aider ma maman.
Ouais. T'avais quel âge, toi?
Je devais avoir dans les 14 ans.
C'était une sacrée idée d'avoir pensé à trouver la pièce.
Oh, si tu savais toutes les idées que j'ai. Mais on n'a jamais voulu me les acheter, mes idées. C'est ça qui est dommage.
Merci de nous avoir confié cette histoire.
Je t'en prie, Alix. Merci à toi.
C'est une très belle histoire. Bonjour Eric.
Bonjour.
Toi aussi, tu as prêté un objet pour le projet de la collection Lambert.
Alors moi, j'ai prêté une partition d'Eric Satie.
Une partition en particulier?
Oui, la troisième gymnopédie.
C'est celle que tu répètes depuis plusieurs années?
Oh, ça fait 10 ans que je répète. Non, ça fait 4-5 ans que je le répète. Ouais. Je trouve que Satie est quelqu'un qui exprime le sensible. Il a cette faculté de créer des couleurs. Il traduit bien les émotions et les silences. Et je trouve que Satie représente bien l'éphémère dans l'art. Et donc je me suis dit que ça pouvait être raccord avec ce qui était présenté à la Fondation Lambert.
Eh ben, je te remercie Eric, donc on retrouvera certainement ta partition parmi les objets de la collection Lambert, associée à une œuvre dont on ne connaît pas encore la nature.
Voilà.
Ça sera la surprise. We are family. On n'est pas bien en famille ?
Bonjour, horoscope du jour, je commence par le taureau. Essayez d'éviter la reine, le roi sera plus clément.
Bélier, attention au mal de tête, n'enfoncez pas les portes, ouvertes. Gémeaux, vous allez voir double, consultez votre ophtalmo.
Cancer, vous serez pince sans rire, que ce soit de côté, en avant ou en arrière, il faut avancer.
Lion, aussi majestueux qu'il soit, le roi des animaux a des problèmes intestinaux. Mangez végé.
Vierge, votre livre est rempli de pages blanches. À vous de les colorer. Bonne nouvelle, c'est pour ce soir. Youpi! Balance, on va te retrouver, t'inquiète. Scorpion, ramenez-vous dardard, car qui s'y frotte s'y pique.
Sagittaire, prière de Sagittaire avant de servir. Secouez-moi. Capricorne, touchez du bois, méfiez-vous des échardes. Verseau, recherche, recto, désespérément.
Poisson, ne vous faites pas paner, jetez-vous à l'eau.
On n'est pas bien, famille.
Évaluée à environ 15 000 pièces de costumes et accessoires, la Costumothèque, située à Montpellier, a été créée en 2016 par Perrine Angers-Michelet.
Alors, je suis comédienne metteur en scène et j'ai toujours travaillé en compagnie, du coup j'ai toujours géré les costumes depuis plus de 40 ans et j'ai contribué du coup à former ce stock costume qu'on retrouve à la Costumothèque.
Justement, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi la Costumothèque ?
La Costumothèque a été créée il y a 6 ans maintenant. Il a fallu sauver ces costumes qui allaient partir en grande partie à la poubelle parce que la compagnie internationale des Gator à qui ça appartenait devait déménager et réduire du coup son stock. Et je me suis battue comme une lionne pour trouver une solution et créer ce projet de costumerie sociale où on fait beaucoup d'ateliers avec les gens du quartier, avec des gens précaires. Voilà, on est avec les bidonvilles, avec des pensions de famille, avec le CIDFF, avec des femmes qui ont subi des violences, avec le Secours Populaire, etc. On a comme ça tout au long de l'année des ateliers de création avec ce public-là, de création et de revalorisation de la personne.
Alors tu as créé un projet pour le CEPA du Luxe 2022. Est-ce que tu peux me parler de ce projet ?
On a créé un spectacle où on raconte l'histoire du costume à travers les âges de la préhistoire à aujourd'hui. Ça s'appelle « Mon rêve en costume, le défilé ».
Quelles sont les réactions des résidents lorsqu'ils se costument ?
C'est impressionnant. Déjà, on est sur des ateliers bulles de plaisir. Et une chose qui est très intéressante, c'est que quand les gens mettent un costume, du coup, ils laissent leur peau à eux, au vestiaire, le temps du shooting photo et puis le temps qu'on les apprête. Ce qui fait que ça leur donne du recul sur leur propre vie et du coup, quand elles reviennent dans leur peau à elles, elles en reviennent modifiées. Alors, tu as en dessous une tunique. Alors, attends, ça, on va le poser. Ah oui, il y a ça aussi. Ça se trouve, ça suffit. Là, tout ça, ça se dégrafe comme ça.
D'accord, on ne peut pas casser par ces boutons.
Alors, il faut que tu l'essayes sans ton pull.
Sans ton pull,
il faut voir déjà, voilà, la pièce maîtresse, c'est ça. Après, le reste, on verra si ça rentre.
Pas lui.
Tiens, vas-y.
Non, pas lui.
Est-ce que tu peux enlever ton pantalon, tes chaussures?
Ouais,
tu gardes la culotte, hein?
Ouais, oui.
Alors, faut t'enlever les chaussettes aussi, ça.
Les vices espadrilles, là, les Romains.
C'est bon, les chaussures, les sandales?
Non, c'est bon. Attends.
Alors, mets-toi debout.
Debout.
Est-ce que ça te va, les chaussures?
Oui, très bien.
Alors, c'est parfait. Très bien. Nickel. Alors, tiens, regarde.
Attends, je marche un peu. Ouais, c'est bon.
Voilà. Tiens, je suis en train de voir qu'il y a des retouches à faire. Hop là. Alors, c'est là où
ça risque de poser problème.
Ouais, non.
Attends. Alors, redescends les bras.
Ouais.
Alors, le premier, on arrive déjà à mettre le premier, c'est pas mal. C'est pas toi, hein, c'est le cuir qui est pas assez souple. Le pire, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre un élastique là pour avoir plus d'aisance. Ça, c'est un peu coincé quand même, hein,
un peu coincé, mais c'est pas grave.
Moi, je pense que ça va le faire. Ouais. Le seul truc, c'est la ceinture. On va essayer de mettre un petit peu de cuir un peu devant.
T'es obligé de la mettre en ceinture, non.
On n'est pas obligé, mais ça finit un peu.
Ah oui, d'accord. Comme tu veux.
Et puis, c'est surtout qu'il y a un gousset là pour mettre une épée. On aurait pu mettre aussi une épée.
Oh, je suis beau comme ça. Oh, je suis magnifique, je suis bon, mais...
Moi, quand j'ai écrit ce projet d'atelier, je savais, parce que j'avais déjà expérimenté, que ça change et que les gens grandissent dès qu'ils mettent un costume. Mais de là à provoquer des déblocages sur des situations par rapport au juge, par rapport au psy, par rapport à des démarches administratives, bon, pour des femmes qui ont subi des violences, par exemple, dès qu'elles ont passé la porte après le premier atelier, il y a eu des déblocages. C'est un truc de dingue.
Merci Perrine pour cette interview.
Merci, et puis moi je leur dis bravo à tous.
On n'est pas bien en famille?
Bonjour, je m'appelle Badia, j'habite au Papillon, je suis marocaine.
Tu as choisi aujourd'hui de nous confier une recette de cuisine que tu vas réaliser par la suite.
Oui, je veux préparer tagine de viande avec prunes et les amandes, parce que ce tagine me rappelle ma grand-mère. Quand j'étais avec elle, je dormais sur sa jambe, elle me raconte les histoires, il me gratte la tête, il me raconte beaucoup de choses. J'étais vraiment, vraiment son bras droit, c'est ma grand-mère, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle.
Et du coup, ce tagine au pruneau, c'est un hommage à ta grand-mère?
Oui. C'est pour ma grand-mère, je le fais pour ma grand-mère.
Pour faire ce tagine au pruneau de la grand-mère de Badia, il nous faut 1 kg de viande d'agneau ou de veau, 500 g de pruneau, 200 g d'amandes, 4 cuillères d'huile, des cuillères à café de poivre, de curcuma, de gingembre, de cannelle, de safran, ainsi que du sel, 3 oignons hachés, 4 cuillères de sucre en poudre, un bâton de cannelle, un petit peu de jus de citron, de l'huile de friture, un bouquet de persil et de coriandre, 2 gousses d'ail hachées. Et tout ça, 1h30 à la cocotte.
Là, madame, on gilet qu'il traîne plus chez les amandes. Et après, on va attaquer la préparation de le repas.
Très bien, chef.
Bon, on prend la viande. J'ai fait la marinade de safran. Je l'ai mis dans un verre avec de l'eau chaude. Je l'ai laissé vraiment bien,
s'imprégner.
Oui. Et après, j'ai mis poivre, sel, l'ail, de piment aussi, paprika. Et je l'ai laissé mariner toute la nuit. Là, on commence un petit peu
On mouille la viande. Ça chauffe petit à petit. Là, on va laisser encore un petit peu. Et après, je vous mets des oignons et les épices. Un verre de l'eau, je verse dans la cocotte. Après, je vous mets du sucre. Après, je vous mets la cannelle. Ça va venir comme un petit sirop bien caramélisé et je vais le mélanger avec les prunes. Là, on va commencer à cuire les amandes. Je vais mettre les amandes avec, dans l'huile encore froid. Comme ça, ça ne va pas cramer vite fait les amandes. Là, on va remuer un petit peu la viande avec les oignons parce que ça commence, les oignons commencent à descendre. Là, ça va. Ah, ça sent bon. Là, on va fermer la cocotte.
Et tu vas le laisser mijoter combien de temps là, à peu près?
Là, si ça va siffler la première fois, après, je vais baisser le feu encore et je le laisse vraiment une heure et demie. Bien cuit, vraiment.
Qui s'imprègne de tous les goûts, des épices, tout ça.
Là, je vous mets les
prunes. Rajoute les pruneaux dans le sirop de cannelle. Ça commence à tourner, la cocotte. Ça te convient?
Oui. Là, ça commence. Hein. Ah, ouais. Ouais. C'est top. Et là, je vous ferme encore. Je le remets encore sur le gaz. Et je vous laisse vraiment me jeter.
Ok. Ouais. Jusqu'à disparition. Ouais. Très bien. Jusqu'à ce que la viande ait absorbé tout le jus. C'est un tagine de patience, un peu, hein. Tout est fait tranquillement.
Oui. Il faut vraiment faire. Prendre le temps pour préparer ce repas vraiment parce que c'est un repas de la famille.
Et ça tombe bien parce qu'on est en famille.
Et oui, on est en pension de famille.
Voilà.
Ça tombe bien aussi.
On n'est pas bien en famille. Hein,
si, on est bien.
Ça va?
Oui, c'est bien. Ah. J'ai mis des ça, les sésames. Sur la poêle un petit peu chaude. Et je les chauffe un peu, c'est juste pour griller un peu, pour le croustiller un peu. Ça y est, j'ai fini. Maintenant, on va préparer les assiettes. Vous allez voir comment je vais mettre dans le plat, comment je vais le préparer.
Présenter, ouais.
Présenter. On commence. Allez, on prend la viande. On va mettre des prunes. Elles sont bien caramélisées là.
Petit morceau de cannelle pour décorer.
Oui. Après, on va mettre
les amandes.
Les graines de sésame. Et ben maintenant. On a fini.
C'est beau, Badia. C'est trop beau. Comment on dit bon appétit en marocain?
Bsaouraha.
On n'est pas bien en famille.
Mon rêve est de voyager à New York. Voir la Statue de la Liberté. De nager avec les dauphins et vive la liberté. It's up to you, New York, New York,
New York. Mon rêve, ce serait de partir en montagne avec ma chienne et de construire une cabane.
Mon rêve, être motarde, à grande vitesse sur mon Harley, en écoutant du Johnny. Je traverserai toute la Californie, cheveux au vent, blouson de cuir, rock'n'roll.
Cette émission a été conçue dans le cadre du festival C'est pas du luxe, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, du service d'entraide protestant, de l'association LACLED et de l'association Gestar. Elle a été préparée par les hôtes et résidents des pensions de famille L'Atelier à Montpellier, le Figuier à la Grand Combe, Salvador Allende et Les Papillons à Alès. À la réalisation, Alix Lepienne.
À la technique, Cécile Guillemin.
Avec la collaboration de Radio Grillot Verte à Alès.